Salut à tous, c'est Augustin Lefebvre, journaliste à Radio Classique et journaliste dans sa chambre pour cette émission. Vous écoutez Retour vers le classique, le podcast qui réconcilie musique savante et pop culture. Dans cet épisode, des fleurs, des hippopotames et des balais qui refusent d'obéir. Fantasia, dessin animé de Walt Disney, sorti pour la première fois en 1940, une suite de 7 courts-métrages sur fond de musique classique. C'est le troisième film de Disney après Blanche-Neige et Pinocchio, deux contes portés sur grand écran. Avec Fantasia, la démarche est différente. Disney veut faire découvrir aux enfants la grande musique et il met donc en scène des petites fées sur du Tchaïkovski ou des centaures sur du Beethoven, mais aussi des gros dinosaures sur du Stravinsky et un démon sur du Moussorgsky. Des séquences qui, il faut bien l'avouer, m'ont effrayé la première fois que j'ai vu le film, j'étais enfant. Il n'y a pas d'histoire à proprement parler, il y a quelques paroles entre les morceaux, mais il n'y a pas de vrai dialogue non plus. Et tout ça, ça peut rebuter les plus jeunes. Alors, est-ce que l'oncle Walt a réussi son pari avec ce film? Est-ce que les enfants et même les plus grands peuvent vraiment découvrir la musique classique dans un dessin animé? Sortez les chapeaux magiques et préparez-vous à en entendre de toutes les couleurs. Il était une fois Walt Disney. Pour comprendre les origines de Fantasia, il faut revenir sur celle de son créateur. Car ce film, que l'on pourrait penser décalé, étrange dans la carrière du génie du divertissement, plutôt associé à Mickey, Donald et Dingo, est en réalité l'aboutissement de tout ce qu'il a fait auparavant. Walter Elias Disney est né en 1901 à Chicago. Au début des années 20, il devient dessinateur publicitaire, puis il passe des dessins aux films d'animation. En 1928, il donne naissance à la plus célèbre des souris, Mickey Mouse. Et avec cette icône de la pop culture, une forme se développe, le dessin animé avec du son. Comme dans Steamboat Willie qui raconte les mésaventures de Mickey sur un bateau à vapeur, le son est synchronisé à l'action. La musique commente tout ce qui se passe et amplifie l'effet comique. Voilà ce que ça donne, juste avec les bruitages et la musique, sans l'image, on peut imaginer. Steamboat Willie est un succès et fait connaître Disney et son nouveau héros. Le procédé du son synchronisé est ensuite utilisé dans toutes les productions de Disney, des productions qui sont divisées en deux séries. D'un côté, les films avec Mickey, de l'autre, les Silly Symphonies, qui sont un peu oubliées aujourd'hui, des histoires dont les héros changent à chaque fois. Et on retrouve dans ce nom Silly Symphonies, que l'on pourrait traduire par symphonie absurde, l'importance de la musique. Ce nom a d'ailleurs inspiré celui de dessins animés concurrents à ceux de Disney, les Looney Tunes. Bugs Bunny, Bip Bip et Daffy Duck, les Looney Tunes, en français, ce sont les chansons délirantes. Mais revenons à nos moutons, ou plutôt à nos souris. Cette technique de synchronisation permanente du son et de l'image est si liée aux premières productions Disney qu'elle a été baptisée « Mickey Mousing », un terme devenu aujourd'hui plutôt péjoratif tant elle a été utilisée. Mais là, nous sommes au début des années 30 et c'est encore nouveau. Dans les années 30, le studio Disney, qui s'est beaucoup agrandi, est en difficulté financière. Pour y faire face, son patron se lance dans ce qui sera vu par beaucoup à Hollywood comme une folie, un long métrage d'animation. Création chaotique, mais énorme succès pour Blanche-Neige, montré pour la première fois quelques jours avant Noël 1937. Succès financier plus faible, en revanche, pour la deuxième tentative Pinocchio, sortie en 1940. Et nous voilà arrivés à Fantasia. Cela peut paraître difficile à imaginer, mais à cette période, la deuxième moitié des années 30, Mickey a perdu de sa popularité. Il est un peu trop sage, moins colérique que Donald, moins maladroit que Dingo, bref, moins comique. Walt Disney veut redonner à son personnage une place de choix en en faisant le personnage principal d'un court-métrage ambitieux. Un court-métrage qui utiliserait la musique pour créer de la poésie et du rêve très éloigné de l'humour burlesque. Et pour cela, il choisit de la musique classique et il veut adapter L'apprenti sorcier de Paul Ducasse. L'apprenti sorcier, c'est le morceau connu du compositeur français Paul Ducasse, qui a vécu de 1865 à 1935. Ducasse a laissé relativement peu de partitions puisqu'il trouvait que ce qu'il écrivait n'était pas assez bien et il déchirait ses œuvres. Pour L'apprenti sorcier, créé en 1897, il s'appuie sur un texte du grand poète allemand Goethe, Der Zauberlehrling, poème écrit un siècle auparavant, lui-même repris d'une histoire de l'Antiquité grecque. Cette histoire, c'est celle d'un jeune sorcier qui tente d'animer un balai pendant que son maître est sorti. Il veut que l'objet fasse les corvées à sa place et transporte des seaux d'eau. Ça prend un peu de temps, mais petit à petit, il y arrive. Puisque les balais travaillent à sa place, l'apprenti sorcier en profite pour faire la sieste, mais il n'arrive pas à contrôler ses pouvoirs et ça tourne mal, la maison est inondée. Le sorcier finit par revenir et comme il n'est pas très content de voir qu'on lui a installé une piscine dans sa cuisine, il remet tout en ordre avec ses pouvoirs. Disney garde cette trame et met des images sur la musique, ce qui est presque redondant parce que la partition est déjà très imagée, très descriptive, on peut suivre l'histoire en l'écoutant. Écoutez simplement les toutes dernières notes, on voit le coup de balai au derrière ou la gifle, selon ce qu'on imagine, que donne le magicien à son apprenti imprudent. La musique qui cherche à raconter une histoire, à décrire des lieux, des actions ou des sentiments, c'est ce qu'on appelle de la musique à programme. Pour cela, elle s'appuie le plus souvent sur un texte, un poème mis en musique, comme c'est le cas ici, mais ça peut être simplement le titre donné par le compositeur qui va orienter l'écoute. Généralement, on oppose la musique à programme à la musique absolue qui n'existe pas par rapport à une source qui n'a pas de texte lié et dont les titres décrivent simplement la forme, ça peut être par exemple une sonate pour piano. Dans ce qui n'est encore qu'un court-métrage, Mickey obtient le rôle-titre, et le sorcier à la fois sage et autoritaire, eh bien, c'est Walt Disney lui-même. En tout cas, c'est un hommage, ses équipes ont baptisé le personnage Yen Sid, Disney à l'envers, et ils ont décidé de lui donner l'expression fétiche de Walt Disney, le sourcil relevé. Mais moi, je dirais plutôt que dans le processus de création de Fantasia, Walt Disney, c'est l'apprenti sorcier, parce qu'il est très ambitieux et qu'il a lui aussi frôlé la catastrophe. On va y revenir, mais pour cela, il faut d'abord que je vous raconte l'histoire de la création du film et celle de la rencontre qui va lancer le projet dans des dimensions qui n'étaient pas du tout prévues et qui va le faire passer du court-métrage à ce qu'on connaît aujourd'hui. Pour préparer l'apprenti sorcier, Walt Disney travaille avec un enregistrement du chef Arturo Toscanini. Mais c'est une rencontre faite par hasard qui va tout changer. Un soir de 1938, il dîne à quelques mètres de Léopold Stokowski, lui aussi chef d'orchestre. La suite, je laisse Disney la raconter.
C'est comme ça que tout a commencé. Je travaillais sur L'apprenti sorcier avec Mickey et un soir, j'ai dîné avec Stokowski. Il me dit « J'adorerais diriger ça pour vous ». Ça nous a amené à faire ce court-métrage, puis la totalité de Fantasia. Et avant que je m'en rende compte, j'avais dépensé plus de 400 000 dollars en musique avec Stokowski.
Léopold Stokowski, c'est un chef d'orchestre britannique qui a vécu de 1882 à 1997. Sa carrière s'étend pendant plus de 75 ans et l'on peut dire qu'elle est marquée par une certaine liberté vis-à-vis des conventions de la musique classique et par un certain sens du spectacle. Il fait partie des chefs qui n'utilisent pas de baguette, il se met parfois en scène avec des lumières, il expérimente avec les règles de l'orchestre, avec le placement des musiciens, mais aussi avec les partitions, notamment en adaptant pour son orchestre des pièces prévues pour d'autres instruments, ce qui fait parfois grincer les puristes. Aux États-Unis, à cette période, Stokowski, c'est une véritable star de la musique classique, un nom connu du public, et il est très excité par le projet dont lui parle Walt Disney, et aussi par l'exposition que ce projet pourrait lui apporter, puisqu'il connaît l'audience de Walt Disney. Il est tellement enthousiaste qu'il voit plus grand. Il propose à Disney de transformer ce court-métrage en un projet de grande ampleur, en y ajoutant d'autres pièces musicales. Disney hésite, il finit par accepter quand il se rend compte de l'explosion du budget, 3 fois plus qu'une Silly Symphonie habituelle. Impossible de rentrer dans ses frais sans faire quelque chose de plus long qu'on peut faire payer plus cher au public. Ce projet de grande ampleur, ce n'est pas un simple long métrage, non, c'est un film concert, un objet hybride, une fantaisie, comme le nomme Stokowski. La fantaisie, c'est une des formes de la musique classique qui, justement, s'affranchit des formes imposées. Pour faire un concert, il faut d'abord établir un programme et choisir ce qu'on va y mettre. Pour cela, Disney demande conseil à Dean Taylor, compositeur, mais surtout critique musical et vulgarisateur de la musique classique, lui aussi très connu à l'époque. Dans Fantasia, on le voit dans son propre rôle, il est le maître de cérémonie et le pédagogue. Il commence par présenter le projet au spectateur.
What you're going to see are the designs and pictures and stories that music inspired in the minds and imaginations of a group of artists.
Ce que vous allez voir, dit-il, ce sont les formes, les images et les histoires qu'a inspiré la musique classique à l'imagination d'un groupe d'artistes. Puis il fait une petite leçon de musique classique en définissant les différents types de musique qui vont suivre, la musique à programme et la musique absolue, une leçon qu'il continue entre chaque dessin animé puisque à chaque fois il présente le morceau et le compositeur. Et dans cette émission, je vais être votre Dean Taylor puisque moi aussi je vais vous présenter les morceaux et les compositeurs. La Toccata et Fugue en ré mineur de Jean-Sébastien Bach, la première œuvre montrée dans le film. Une œuvre pour orgue, ici transcrite pour orchestre par Léopold Stokowski lui-même, une des pièces les plus célèbres de Jean-Sébastien Bach et même de la musique classique en général. Elle est utilisée dès la naissance du cinéma pour évoquer la peur. On en sait assez peu sur les circonstances de sa composition, si ce n'est qu'elle date du tout début du XVIIIe siècle, au moment où le compositeur baroque allemand a environ une vingtaine d'années, il est né en 1685. Dans Fantasia, la Toccata et Fugue est accompagnée d'images censées évoquer les images que voit le spectateur d'un concert lorsqu'il ferme les yeux et qu'il écoute la musique. Ce passage est inspiré par le travail de l'artiste allemand Oskar Fischinger, qui faisait du cinéma d'animation abstrait. Il synchronisait des formes colorées sur de la musique, c'est vraiment fascinant. Il a été appelé par Walt Disney pour travailler sur le film. La collaboration n'a pas abouti, mais elle témoigne de l'ambition artistique de Disney. C'était trop abstrait pour lui, il a préféré garder des formes figuratives. On devine donc des archets de violon qui flottent dans le ciel, des lignes brillantes qui évoquent à la fois les vagues et les cordes des instruments. Le passage se termine dans une sorte de feu d'artifice et de coucher de soleil. Le court-métrage suivant prend à contre-pied le spectateur. Il s'agit de Casse-noisette de Tchaïkovski, créé en 1892. Piotr Ilitch Tchaïkovski, compositeur russe, auteur entre autres de deux des ballets les plus populaires et les plus joués aujourd'hui, Le Lac des Cygnes et Casse-noisette. Casse-noisette raconte l'histoire d'une petite fille qui rêve la nuit de Noël que le casse-noisette qu'elle vient de recevoir en cadeau s'anime et devient un prince charmant. Eh bien cette histoire, ce n'est pas du tout celle que choisit de raconter Disney. Disney garde l'idée du ballet, mais il fait danser la nature, des petites fées, des fleurs. une nouvelle interprétation d'une musique célèbre qui permet de montrer que l'imagination est libre d'associer ce qu'elle veut à la musique et qu'on n'est pas obligé de suivre l'histoire qu'elle veut raconter. Vient ensuite l'apprenti sorcier dont j'ai déjà parlé, puis le Sacre du printemps de Stravinsky. Stravinsky est le seul compositeur vivant au moment de la production du film. Né en Russie en 1882, il est naturalisé français puis américain. Le Sacre du printemps a été créé à Paris en 1913 et l'avant-gardisme de ce ballet a provoqué un véritable scandale qui a marqué l'histoire de la musique. Dans Fantasia, il devient un film éducatif.
Science, not art, wrote the scenario of this picture.
La science et non l'art a écrit le scénario de cette partie, nous dit le narrateur. Walt Disney fait de ce court-métrage un film scientifique sur la naissance de la Terre et sur la naissance des dinosaures, puis leur extinction. Aujourd'hui, la connaissance scientifique a évolué, mais à l'époque, c'est une véritable leçon de paléontologie et de biologie, à tel point que ce passage a été diffusé dans certaines écoles. Changement total d'ambiance pour le segment suivant, la 6e symphonie de Beethoven, la symphonie pastorale. Une œuvre composée par le citadin Ludwig van Beethoven pour évoquer la campagne et surtout les émotions qu'elle fait naître quand on s'y promène. Beethoven a vécu de 1770 à 1827, on commémore cette année les 250 ans de sa naissance. Impossible de résumer toute son œuvre tant elle a été marquante pour la musique. La 6e symphonie, c'est un bon exemple de musique à programme. On y entend les danses paysannes ou la tempête. Dans Fantasia, c'est une scène mythologique avec des centaures qui flirtent, Bacchus qui organise une bacchanale, Jupiter qui s'énerve et qui lance ses foudres comme des javelots, mais la tempête finit par se calmer. On en arrive au troisième et dernier ballet utilisé dans Fantasia. La danse des heures, un extrait de l'opéra La Gioconda du compositeur italien Amilcare Ponchielli. Et cet opéra est son œuvre la plus connue aujourd'hui, mais c'était déjà le cas il y a 80 ans lors de la création de Fantasia. Walt Disney l'utilise pour faire un véritable ballet animé. Il a même engagé de véritables danseurs pour copier leurs mouvements.
Le ballet a inspiré de merveilleuses œuvres d'art, comme cette peinture de Degas, mais jamais de films d'animation. Nos animateurs n'y connaissaient rien, et comme la bonne connaissance d'un sujet est essentielle pour le caricaturer, nous avons ajouté un nouveau cours au programme de l'école du studio, la danse classique.
De vrais danseurs qui deviennent des animaux. Pour la seule séquence véritablement comique du film, Disney met en scène des animaux qui dansent. Des autruches, des hippopotames, des éléphants, des alligators. Et chacun a un nom qui évoque les danseurs de l'époque, comme la première éléphante Éléphantchine qui fait penser au danseur russe Georges Balanchine. Car cette partie, c'est une parodie du ballet classique. Disney dit lui-même une caricature. Un moment burlesque qui se termine avec l'effondrement des décors. On est dans la droite ligne des Silly Symphonies et la musique de Ponchielli avait d'ailleurs été utilisée dans un de ses courts-métrages quelques années auparavant, car c'est la musique associée au ballet à l'époque, usée et réutilisée, c'est devenu un cliché et c'est donc le support idéal pour une parodie, ambiance légère qui laisse place à un final très sombre. We'll be right back. Au début du dernier court-métrage, Fantasia fait entendre « Une nuit sur le Mont Chauve » de Modeste Moussorgski, compositeur russe du 19e siècle. Ce morceau raconte une nuit durant laquelle les démons sortent de terre. Ici, c'est le gigantesque et terrifiant Tchernobog qui s'éveille du sommet d'une montagne et qui appelle à lui démons, diablotins, fantômes et monstres. Mais la cloche du village qu'il voulait saisir sonne, le démon prend peur et tandis que le jour se lève, l'Ave Maria de Schubert débute. L'Ave Maria, c'est la seule musique vocale du film. Franz Schubert a vécu de 1797 à 1828, une vie très courte mais une œuvre très riche pour ce compositeur autrichien qui a laissé des centaines de lieder, des poèmes mis en musique. L'Ave Maria, c'est un de ces lieder. Le texte initial ne correspond pas du tout à la prière catholique du « Je vous salue Marie » en latin, c'est un ajout ultérieur. Dans le film, il est utilisé comme une conclusion, le jour se lève et l'espoir renaît. Pour résumer, Fantasia met en scène des œuvres majoritairement composées au XIXe siècle et surtout des œuvres qui sont toutes ou presque associées à quelque chose qui facilite la mise en image. Il y a trois ballets, c'est donc de la musique composée spécifiquement pour le mouvement. La musique à programme, elle, est directement associée à des images par le compositeur. Et la musique vocale a un texte qui permet de comprendre ce qu'elle veut dire. Seule exception dans cette liste, le court passage qui ouvre le film, le morceau de Jean-Sébastien Bach. Il est plus ancien, il n'est associé à aucune image. Celles du film ne sont qu'une proposition, un moyen pour Disney de dire aux spectateurs que chacun est libre de voir ce qu'il veut quand il écoute de la musique. Nous voilà arrivés à la question de la réception de Fantasia. Si aujourd'hui c'est un film très connu, il n'a pas du tout marché à sa sortie. C'est lié à la fameuse ambition de Walt Disney et de Léopold Stokowski dont je parlais en introduction, ce syndrome de l'apprenti sorcier qui nous pousse parfois à nous penser plus fort que nous ne le sommes réellement. Aujourd'hui, si on veut voir le film, on se met devant sa télé ou devant son ordinateur et on en profite. À l'époque, ce n'est pas du tout ça, et ce n'est pas pour rien que le narrateur introduit cette œuvre en la présentant comme une nouvelle forme de divertissement. L'ambition est de créer quelque chose d'hybride, d'inédit. Et quand Stokowski dit qu'il veut faire un film-concert, il faut y entendre concert comme un concert classique. Pour voir Fantasia, il fallait réserver son ticket en avance, on avait une place attribuée dans la salle, et comme à l'opéra, un programme est distribué aux spectateurs pour présenter le principe du projet, l'équipe qui l'a réalisé, il n'y a pas de générique dans ce film, et les différents morceaux qui sont utilisés. Ces morceaux, ils devaient changer avec le temps. Ce film-concert devait être évolutif. Problème, seules quelques salles pouvaient diffuser Fantasia, car le film s'accompagne d'importantes innovations technologiques. Certaines idées comme la 3D ou la diffusion de parfums ont été abandonnées, mais Stokowski a tenu à ce que la musique soit de la meilleure qualité possible. Il était très intéressé par le développement de la technologie, et donc il voulait le premier son en stéréo. Un son qui restituerait fidèlement la musique dans l'espace comme si on était dans une vraie salle de concert. Les ingénieurs de Disney développent donc ce qui est le premier système stéréo du cinéma, le Fantasound. Aujourd'hui, le son stéréo est devenu banal. À l'époque, c'est une révolution. Et pour faire cette révolution, il faut payer, il faut faire des aménagements très coûteux pour adapter les salles et installer des enceintes partout. Seule une douzaine de salles sont équipées dans les grandes villes américaines. Et si c'est la première fois que vous entendez ce nom de Fantasound, c'est normal. Ce dispositif n'a été utilisé que pour Fantasia, trop cher et trop compliqué à mettre en place. On a donc un film qui ne peut être montré que dans certaines salles de certaines villes, un film qui a coûté très cher à produire, 2 300 000 dollars de l'époque, avec l'inflation ça fait 39 millions d'euros aujourd'hui, un film qui n'en est pas tout à fait un, qui n'est pas tout à fait un concert non plus. Cela déconcerte les critiques, certaines sont dithyrambiques, d'autres beaucoup plus hostiles, car plusieurs revues envoient non pas leur critique cinéma, mais leur critique musicale. Et pour eux, les libertés prises par Stokowski sont inacceptables. La symphonie pastorale, par exemple, elle ne dure que 22 minutes dans le film, environ la moitié de sa durée habituelle. Il a fallu faire des coupes, des arrangements. Choc également dans le dernier passage, quand Une nuit sur le Mont Chauve est fusionnée avec l'Ave Maria. En France, le critique du Monde résume le sentiment général, il parle de profanation. Le concept même du film a été très critiqué. Mettre des images sur de la musique, c'est imposer ces images à l'auditeur. L'auditeur qui pourrait être libre d'imaginer ce qu'il veut. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'apprenti sorcier est profondément associé à Mickey avec sa robe rouge et son chapeau bleu. Enfin, dernière raison de l'échec du film, nous sommes en 1940 et l'Europe est plongée en pleine Seconde Guerre mondiale. Pour tenter de sauver les meubles, Fantasia ressort au cinéma aux États-Unis en janvier 1942. Une version plus simple d'accès, le film ne dure plus qu'1h20 contre les 2h05 de la version originale. Au revoir la toccata et fugue de Bach, au revoir le narrateur qui présente les œuvres. Terminé le Fantasound, c'est le retour au son mono. Ça permet de baisser les prix du ticket et de le proposer dans beaucoup plus de salles. En 1942, le film reçoit aussi 2 Oscars d'honneur pour le travail sur le son et pour la création d'une nouvelle forme de musique imagée. Cette mauvaise performance commerciale pour un projet qui tenait vraiment à cœur de Walt Disney lui a toujours laissé une profonde amertume. Voilà ce qu'il disait quelques années après.
Échec financier, succès artistique, enfin même ça, ça a été remis en cause.
Mais heureusement, nous sommes chez Disney et tout est bien qui finit bien. Le film est régulièrement ressorti au cinéma depuis avec parfois quelques modifications. On coupe les personnages issus de stéréotypes racistes, on réenregistre la musique, on restaure la musique originale. Et à chaque fois, le film devient de plus en plus populaire. La ressortie de 1969 avec son affiche psychédélique en a fait une œuvre très importante de la culture hippie qui expérimente ces images colorées sous substances hallucinogènes. En France, j'ai compté 6 sorties en salle depuis 1946, la dernière remonte à 2008. Les recettes mondiales sont estimées à 80 millions de dollars et le concept artistique a lui aussi eu une suite, Fantasia 2000 en 1999, qui reprend le principe du film avec de nouveaux morceaux. Seul l'apprenti sorcier est conservé. C'est le neveu de Walt Disney qui l'a réalisé et qui a donné vie d'une certaine façon au souhait de son oncle d'en faire un spectacle évolutif avec de nouveaux morceaux. Mais bon, 60 ans plus tard, l'histoire s'est répétée et là aussi, ce film n'a pas très bien marché. Nous voilà donc arrivés à l'époque d'aujourd'hui et on n'a pas encore tellement parlé des enfants. Parce qu'au cours de la création, on est passé d'un court-métrage traditionnel à un projet de grande envergure, un divertissement familial qui assume son côté artistique. Alors, revenons à la question de départ, est-ce que Fantasia est un bon moyen de faire découvrir la musique classique aux enfants? Eh bien oui, et non. Pourquoi non d'abord? Parce que c'est un film qui peut être très difficile d'accès. Il est très long, il dure plus de 2 heures, il est poétique certes, mais il n'est pas très drôle, à l'exception du passage dans lequel les animaux dansent. Il n'y a pas de personnage principal à suivre, sauf Mickey dans L'apprenti sorcier, il n'y a pas vraiment de dialogue, et c'est un film qui fait parfois très peur. Le site IMDB, Internet Movie Database, affirme qu'au début des années 2000, les studios Disney recevaient toujours des lettres de parents qui se plaignaient que la dernière partie faisait trop peur. Moi, j'ai pas de souvenir des circonstances de mon premier visionnage de Fantasia, c'était sans doute chez ma grand-mère, mais je me souviens que j'ai été terrifié par le passage de l'extinction des dinosaures et par le passage de la fin avec le démon. Et visiblement, j'ai pas été le seul. J'ai fait lire quelques critiques trouvées sur le site Sens Critique, 2 avis qui résument la tonalité générale de ceux qui ont du mal avec ce film.
Je suis incapable de donner une note significative à ce film, ni même de le revoir. Quand j'étais gamine, ce film m'a foutu les jetons jusqu'à avoir peur de la musique classique, mais ça, heureusement pour moi, c'est fini depuis longtemps. Les enfants ne sont clairement pas la cible principale tant le concept leur paraîtra flou et même déprimant. Je sais de quoi je parle, je n'ai regardé le film étant jeune qu'à cause de la présence de Mickey sur l'affiche. Walt Disney vise un public plus mature, plus exigeant, qui le reconnaîtra enfin comme un artiste complet.
Cette question de la réception de Fantasia et de son utilité au-delà du divertissement pour découvrir la musique classique, elle est assez compliquée à trancher, car on trouve des avis exactement inverses sur le même site. Cette marque Disney attire des gens qui iront ensuite approfondir ce qu'ils ont entendu.
Comment faire aimer un genre de musique ou donner une culture musicale sur un type de musique à une personne qui n'en a pas? Question difficile, n'est-ce pas? Si Fantasia est un de mes plus gros coups de cœur en termes de dessin animé, c'est parce que justement il a parfaitement répondu à cette question. Le puriste pourra reprocher au film notamment le troncage des morceaux, quelquefois une réorchestration peu fidèle. Mais on devrait plutôt voir ce film comme une formidable tentative de vulgarisation d'une musique peu accessible, surtout aux jeunes oreilles, et qui permet à ce genre de public de découvrir en douceur ses œuvres et de se forger un bon début de culture musicale. Personnellement, je dois à ce film mes premières expériences psychédéliques, mes premières œuvres classiques, mes premières rêveries, en tout cas celles qui remontent le plus loin dans ma mémoire. Je ne remercierai jamais assez mes parents d'avoir choisi ce film plutôt qu'un autre à Noël.
Bref, je pense que Fantasia peut être un film pour les enfants, mais qu'il faut mettre quelques conditions. Déjà, ne pas montrer ce film à des enfants trop jeunes, et puis peut-être le découper et ne montrer que quelques segments en commençant par L'apprenti sorcier ou La danse des heures. Il peut être un film pour enfants, mais pas seulement pour enfants. Il faut le rappeler, le cinéma d'animation n'est pas synonyme de jeune public. Et d'ailleurs, on l'a vu, Walt Disney s'est progressivement éloigné de son idée de départ pour essayer de toucher un public très large, pour faire venir à son spectacle des gens qui ne seraient sans doute jamais allés voir un concert et pour leur faire entendre des morceaux qu'ils n'auraient peut-être jamais entendus. Pour résumer cet épisode, Walt Disney a une ambition artistique importante avec Fantasia. Il consulte des artistes, il en prend certains pour modèles et il veut que la technique suive. Rien n'est trop beau pour son projet, pas même le développement d'un système sonore inédit. Il joue à l'apprenti sorcier, ce qui accentue les difficultés financières que son entreprise rencontre alors, puisque son ambition de faire du film un événement culturel plus proche d'un concert que d'un long métrage n'a pas payé. Jusqu'à ce que certaines mentalités évoluent et que le film devienne plus accessible au grand public, dans ce public des enfants, mais il y a quelques précautions à prendre si on ne veut pas qu'il termine marqué à vie par cette expérience, comme ça a été mon cas. C'était Retour vers le classique, merci d'avoir écouté. Merci à Marc, Lucille et Céline de la rédaction de Radio Classique pour leur voix. Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page de cet épisode sur radioclassique.fr. Vous pouvez aussi me contacter sur Twitter et me raconter quels sont vos souvenirs de ce film et si ça vous a fait faire de belles découvertes musicales. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous sur les plateformes habituelles de podcast. Prenez soin de vous, à bientôt.